Joshua regardait par la fenêtre, tout benaise.
Je me disais qu'on est bien ici.
Ah ouais. Tu sais, moi, je me dis la même chose quand j'écoute l'agité du local.
Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faille lutter contre toutes formes de discrimination. On est d'ailleurs tous confrontés aux discriminations en tant que témoins ou victimes, et il semble important de savoir où on se situe par rapport à ça, comment fonctionnent les discriminations, comment agir contre elles selon où on se trouve. Et justement, le 9 mars ont commencé les semaines d'éducation contre les discriminations organisées par le collectif d'associations Unissons nos différences. Et mes invités d'aujourd'hui vont justement nous parler d'un temps en particulier, parce que le 17 mars, l'association mayonnaise d'action auprès des gens du voyage inaugure une exposition accompagnée d'une lecture théâtralisée et d'une conférence musicale. À mes côtés aujourd'hui, Didier Baudet, président de l'association. Bonjour Didier, merci.
Bonjour.
Avec vous également, Maryse Gaspard, vous êtes directrice, vous, de l'association. Bonjour.
Bonjour.
Dans quelques instants, on parlera justement de ce temps fort. Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous aussi, amis auditeurs, dans l'agité du local. Et bonjour à toi, Lucie.
Bonjour.
On t'écoutera à 12h35 pour l'actu en bref et pour le point météo. Dans la suite de cette émission, nous continuons notre série de reportages sur les reflets du cinéma canadien, festival organisé par l'association Atmosphère 53. Et aujourd'hui, c'est Estelle Chénet que l'on rencontre qui nous parle des différents projets mis en place autour du festival auprès des élèves de différents établissements en Mayenne. Et bien sûr, sans surprise, on terminera cette émission avec notre chronique du jour. Et aujourd'hui, c'est Donatien que l'on écoute nous parler, semble-t-il, des funérailles d'antan. Mais je le disais, je suis en bonne compagnie aujourd'hui puisque je suis avec Maryse Gaspard et Didier Baudet. Et donc aujourd'hui, vous représentez l'association mayonnaise d'action auprès des gens du voyage. Et j'ai envie de vous demander, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association et ses différentes actions sur le territoire ?
Oui, bien évidemment. Alors la MAV, c'est une association qui a déjà un peu d'âge, puisque dans 2 ans, nous fêterons les 60 années d'existence. Une association qui s'est mise en place sur le territoire mayennais depuis la création de la première aire d'accueil en France, qui était sur Laval, qu'on appelait la Jaunet. Donc aujourd'hui, cette association a la particularité de fonctionner sur un triptyque, à savoir des professionnels, des bénévoles et bien sûr, les 500 familles de voyageurs qui transitent sur le territoire. Nous travaillons donc ensemble, et c'est aussi pour ça que nous travaillons pour lutter contre les discriminations, puisque plus on est ensemble, plus on est proche des uns des autres, et plus les différences s'amenuisent, puisqu'on se connaît beaucoup plus. La MAV, c'est en fait deux centres sociaux qui gravitent autour de Laval Aglo pour le premier centre social et qui gravitent sur l'ensemble du département pour le deuxième centre social, puisque nous avons 8 aires d'accueil sur le département. 8 aires d'accueil qui couvrent le sud Mayenne, Cran, Château-Gontier, et qui couvrent Laval Aglo, Changé, Saint-Berthevin, Laval, et ensuite le nord Mayenne, Ernée, Mayenne et Évron, si je n'ai pas oublié. Voilà.
Et donc, vous intervenez dans différents domaines.
Alors, nos équipes professionnelles et les bénévoles interviennent sur l'ensemble des problèmes au quotidien, c'est-à-dire sur les problèmes administratifs, sur les problèmes scolaires, sur les problèmes de santé. C'est-à-dire, c'est un accompagnement à la fois qui peut être individuel sur des situations très précises et sur beaucoup d'actions collectives. Actions collectives auprès des enfants, auprès des adolescents, auprès des adultes, auprès des parents, auprès des mamans, auprès des papas, auprès des micro-entrepreneurs. Voilà, donc c'est un large spectre d'intervention que nous faisons toute l'année.
Et donc, je le disais tout à l'heure, du 9 au 22 mars, c'est organisé par le collectif Unissons nos différences, 2 semaines d'éducation contre les discriminations. Vous faites partie de ce collectif-là. Et dans ce cadre-là, vous organisez le 17 mars un événement qui comporte donc plusieurs temps. Ça se passera à la bibliothèque Albert Legendre de 15h à 18h30. Expliquez-nous un petit peu ce qui est prévu ce jour-là.
Alors, effectivement, en partenariat avec la Vigie et la Maison de l'Europe, la bibliothèque de Laval nous ouvre ses portes pour accueillir sur une après-midi, donc enfin même pour une quinzaine, une exposition « Adieu roulotte et chevaux ». Donc, cette exposition prêtée par la Vigie, en fait, retrace l'histoire de l'internement des gens du voyage en Mayenne de 1940 à 1942. Il faut savoir qu'il y a eu deux camps d'internement en Mayenne, un à Montsûr et l'autre à Gré-en-Boëre. Et effectivement, les familles du voyage étaient à l'époque internées sur le seul fait qu'elles étaient itinérantes, donc suspectes. Donc nous inaugurerons cette exposition dimanche et puis suivra en fait une lecture à quatre voix de recueil de témoignages de voyageurs. Des collègues du 72 ont été à la rencontre de voyageurs donc dans le département de la Sarthe qui ont pu parler de leur vie d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Donc en fait c'est l'expression en fait de personnes sur leur vie et qui en fait vont raconter j'allais dire les petites joies, les petites peines en fait c'est vraiment l'histoire d'une vie humaine avant tout et effectivement on se rend compte qu'au-delà de l'habitat que ce soit en maison ou en caravane en fait ben voilà nous avons des vies similaires. Lorsqu'on est en caravane c'est des fois un peu plus compliqué malgré tout parce qu'on est discriminé du fait du mode de vie mais voilà, cette lecture théâtralisée dure à peu près une demi-heure et permet de mieux comprendre et de mieux connaître la vie ordinaire des gens du voyage. Et cette lecture sera suivie d'une conférence musicale animée par Jean-Claude Rouméga, ancien directeur d'une association similaire, mais dans le 65, qui, au travers d'extraits choisis de chansons françaises, donc ça va de Dalida aux Ogres de Barbac, en passant par Léo Ferré, Aznavour, Renaud, voilà, Mano Solo, en fait, tout un tas de chanteurs qui ont chanté les gens du voyage. Eh bien, en fait, Jean-Claude analyse et déconstruit les représentations des gens du voyage qui sont véhiculées dans la chanson française. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée très intéressante et assez novatrice qui nous permet, en fait, de mieux connaître l'évolution du statut des gens du voyage dans notre société, leur culture, leurs difficultés au quotidien. Et cette conférence sera aussi accompagnée d'un diaporama qui représente des photographies de gens du voyage au quotidien.
Justement, vous parlez du quotidien et des difficultés quotidiennes que rencontrent les gens du voyage. Vous qui êtes directement sur le terrain, quelles sont peut-être même les discriminations que vivent ces personnes-là au quotidien ?
Alors, il faut déjà quand même savoir qu'en 2022, il y a eu un rapport des droits par le défenseur des droits au niveau national qui démontre en fait que les gens du voyage est quand même la population la plus discriminée en France. J'allais dire qu'en fait, tout est compliqué dès qu'on est gens du voyage. Déjà, pour s'arrêter, en fait, souvent, il n'y a pas assez d'aires d'accueil. Les aires d'accueil sont des lieux qui ne sont pas dédiés à de l'habitat véritable, mais plus à du stationnement et à un parking. Et donc déjà, rien que les conditions d'habitat, il a été démontré il y a peu de temps qu'en fait, ça engendrait des problématiques aussi de santé importantes, en fait, parce que voilà, lorsqu'on ne peut pas avoir l'eau, l'électricité, un lieu d'accueil décent, voilà, les aires d'accueil sont souvent près des stations d'épuration ou sous les lignes haute tension ou dans des zones avec des usines dégageant, enfin voilà, des toxicités pour... qui sont nuisibles à la santé. Voilà, donc au niveau de la santé aussi, il est difficile déjà pour tout à chacun d'avoir accès à un médecin ou à un professionnel de santé. Quand on n'est pas non plus domicilié et qu'on n'est pas du territoire, c'est encore plus compliqué. Pour scolariser ses enfants, ben voilà, effectivement, lorsqu'une école sature et qu'on arrive pour un mois dans une ville, c'est pas toujours possible de scolariser ses enfants, ou du moins dans de bonnes conditions. J'en cite plusieurs.
Il vient d'être fait une enquête en Aquitaine là, sur la santé des gens du voyage. Il y a une espérance de vie quand même qui est réduite par rapport aux sédentaires de 10 à 15 ans, ce qui est énorme. Et donc effectivement, problème d'obésité, problème de nutrition, beaucoup de carences, etc., du fait de leur mode de vie. Et donc c'est en fait aussi une discrimination quelque part, quoi, qui est très importante.
Oui, ce serait aux collectivités aussi d'agir, de prendre soin, en fait, d'avoir des conditions d'accueil décentes, en fait, pour ces personnes.
Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a un schéma départemental là, qui est en pleine réécriture et qui est en finalisation pour pouvoir accueillir au mieux les familles du voyage sur le département de la Mayenne. Après, on ne va pas non plus... en Mayenne, il y a des aires d'accueil et voilà, il y a des choses qui sont faites pour les gens du voyage, mais... Effectivement, maintenant, en fait, il y a d'autres modalités d'habitat qui sont souhaitées par les familles, notamment de l'habitat privé avec un habitat mixte, caravane et pièces de vie, voilà. Et effectivement, là, c'est beaucoup plus compliqué d'accompagner les collectivités sur ce type de projet parce que ça reste de l'habitat adapté en marge, que les familles restent minoritaires et que pour tout à chacun, souvent, on pense que les gens du voyage ont choisi ce mode de vie et que au final l'habitat maison peut aussi répondre en fait à leur projet, alors qu'en fait effectivement on choisit pas d'être voyageur tout comme on ne choisit pas d'être sédentaire, mais c'est difficile pour les personnes de faire ce pas de côté et de se dire que finalement pourquoi est-ce qu'on est sédentaire ou voyageur? Voilà, on n'a pas choisi d'être né sédentaire ni voyageur, mais ça reste compliqué de penser l'habitat différent. En fait, voilà, c'est un habitat plutôt classique.
Plus globalement, pour lutter contre les discriminations, il faut un gros travail de pédagogie et il faut partager les expériences. Je parlais tout à l'heure des expériences collectives. Nous avons moult expériences collectives où des élus viennent, par exemple, partager un petit moment. Et en fait, c'est là qu'il y a des déclics et des choses qui se construisent et qui sont positives. Mais c'est un travail de longue haleine et qu'il faut renouveler tous les jours.
Donc il est important de se rendre par exemple à ce type d'événement que vous organisez le 17 mars pour mieux comprendre ces parcours de vie, ces témoignages et à un moment créer un temps aussi où on va vers l'autre pour comprendre le quotidien, parce que finalement on a l'impression des fois de connaître les discriminations, mais elles se passent à différents endroits et de différentes manières. Et donc cette journée du 17 mars est essentielle. C'est d'ailleurs pas le seul temps que vous organisez, puisque le 28 mars vous organisez un ciné-débat au Vox avec le film Les Autres Chemins d'Emmanuel Lacoste. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Donc là, nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuel Lacoste qui, effectivement, a accompagné pendant toute une année Francky, un voyageur qui est sur une aire d'accueil sur Rennes, donc qui est voisin de la Mayenne, et qui a accepté, en fait, qu'elle s'immisce comme ça un peu dans sa vie. Alors, on va le suivre dans son travail, dans l'éducation de ses enfants, avec son père. Voilà, on le voit vraiment dans sa vie au quotidien. Et en fait, on le voit se questionner avec l'évolution, mais de la société, qui vient impacter forcément le mode de vie du voyage. Et en fait, il se pose des questions de père, mais en tant que père voyageur ou plus voyageur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'être voyageur aujourd'hui? Est-ce que c'est être itinérant? Est-ce que c'est juste être en caravane? Qu'est-ce que les nouveaux métiers pour les jeunes voyageurs aujourd'hui et ceux de demain? Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment très intéressant comme documentaire et sa fille Naomi sera aussi présente. Donc en fait, c'est aussi un témoignage de jeunes voyageurs qui viendront échanger avec les spectateurs et parler de leur quotidien, de leurs questions, de leur joie et de leur peine aussi, quoi. C'est vrai que les voyageurs, on en parle souvent comme problème, mais heureusement, il y a aussi plein de choses où effectivement, ils ont en fait ce côté famille et ce côté, j'allais dire, d'adaptation qui fait qu'ils ont plein de ressources et sur lequel ils ont aussi plein de belles choses à nous partager. Donc c'est aussi un beau témoignage et c'est vraiment très positif comme documentaire. Donc, effectivement, on invite tout le monde à venir le 28 mars échanger avec Francky et les autres voyageurs qui seront aussi présents avec nous ce soir-là.
Et donc, il y a deux rendez-vous, je rappelle, le 17 mars à la bibliothèque Albert Legendre à Laval de 15h à 18h30. Est-ce qu'il faut réserver? Comment ça se passe?
Pour le 17 mars, non. Voilà, normalement, on aura matière d'accueillir toutes les personnes qui viendront nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Et c'est gratuit.
Et donc, le 28 mars, c'est un ciné-débat organisé au Vox à Mayenne. Je rappelle le nom du film « Les autres chemins » d'Emmanuel Lacoste. Merci beaucoup Didier et merci beaucoup Maryse d'avoir été avec nous, d'avoir pris...
Merci de votre accueil.
Merci beaucoup. Je vous propose désormais maintenant une petite pause musicale. On écoute « Aimer sans amour » de Guts.
À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. partir de maintenant. La vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. Aimer sans amour.
Allez, tenez-vous bien, chers auditeurices, aujourd'hui, les brèves commencent par du sport. Et oui, on parle rugby tout d'abord. Nos équipes mayennaises ont brillé tout le week-end en R2 et en R3. Laval s'est démarqué en R2 face à Pont-Lieu avec 39-38. Mayenne a également eu un très beau match en R3 face à Saint-Hilaire avec un beau 44-29. Et pour compléter le tout, c'est Château-Gontier qui a battu Sèche-sur-Loire en R3 également avec un imposant 43-8. Côté foot, nos tangos ont également remporté une belle victoire face à Grenoble avec 2-0, ce qui leur permet de reprendre la 3e place en Ligue 2. Allez, place au conseil départemental à présent. Hier, lundi 11 mars, l'opposition a tenu à aborder le sujet de la protection de l'enfance et a pointé du doigt la situation qu'elle juge très détériorée. À savoir que la majorité défend la restructuration qui est en cours, dont Vincent Saulnier, vice-président du département, qui défend un effort financier plus important ces dernières années et estime que cette restructuration est nécessaire.
Face à lui, Antoine Leroyer, élu de Pour une Mayenne écologique et solidaire, souligne de son côté que depuis cette restructuration, la situation a empiré selon lui, avec pour exemple une multiplication des arrêts de travail, un manque d'interlocuteurs et des professionnels qui partent de plus en plus. On part à Mayenne avant de se donner quelques petits rendez-vous pour finir, chers auditeurs. Place Clémenceau, le jardin éphémère qui revient tous les ans, sera plus petit mais installé plus longtemps cette année. L'idée étant de faciliter la circulation et le stationnement et de permettre son installation d'avril à octobre 2024. Quelques petites dates pour finir. Ce samedi 16 mars, les jeunes de 16 à 25 ans ont rendez-vous à l'Espace Mayenne à Laval pour l'opération Job d'été, au programme des speed dating professionnels, un espace d'accompagnement pour les CV et un espace pour parler des jobs pour les moins de 18 ans, un espace alternance également. Un peu plus tard, à Loire-en-Ruillet, c'est le théâtre des Trois Chênes qui va accueillir le théâtre Forum Tous aidants, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Ça concernera tout type d'aidants, notamment pour les informer sur leurs droits, présenter les acteurs, valoriser le fait que les aidants prennent du temps pour eux et les orienter vers les solutions de répit qui existent sur le territoire. Ce sera donc mardi 19 mars au Théâtre des Trois Chênes à Loire-en-Ruillet. L'inscription est conseillée, vous pouvez le faire au 02 43 02 19 31. Et on termine, tant qu'on parle d'aide, c'est l'Institut de formation d'aide soignante de Château-Gontier qui vous invite à ses journées portes ouvertes le 13 avril prochain de 10h à 14h et qui annonce également que les inscriptions sont ouvertes et possibles jusqu'au 15 juin prochain. Côté météo, pas de surprise. Malheureusement, on est sur un ciel nuageux avec 13 à 15 degrés cet après-midi pour redescendre à 11 degrés ce soir et jusqu'à 10 degrés dans la nuit. Et attention, demain, ça va aller très vite. Il fera nuageux, voire un peu brumeux le matin, puis juste très nuageux partout sur le territoire l'après-midi. Les températures commenceront à 10 degrés pour monter jusqu'à 14-15 degrés, voire 16 degrés dans le sud du département, comme à Château-Gontier et à Cran. Demain soir, le ciel sera voilé, donc on pourra faire un petit coucou au soleil et les températures vont redescendre à 11-12 degrés, puis jusqu'à 8 degrés dans la nuit, toujours avec le ciel voilé. Bon, Amira, ça lui va bien, cette météo à choisir, elle préfère encore un ciel nuageux ou un peu voilé et des températures modérées, ni trop chaudes ni trop froides. Bah oui, pour aller s'entraîner sur les parcours de VTT, c'est un peu plus agréable quand on ne crève pas de chaud et qu'on n'est pas trempé par la pluie.
Et on continue notre série de reportages sur les reflets du cinéma canadien avec l'association Atmosphère 53. Et aujourd'hui, on rencontre Estelle Chenet, chargée d'accompagnement des dispositifs scolaires au sein de l'association qui organise le festival. Écoutez.
Je suis Estelle Chenet, je suis chargée des dispositifs scolaires à Atmosphère 53, donc l'association de cinéma. Donc mon poste, du coup, c'est de, grosso modo, d'envoyer les élèves au cinéma et en plus de leur proposer des ateliers autour du cinéma pour qu'ils comprennent ce qu'ils voient.
Et alors donc là, il y a différents temps qui sont prévus justement avec les scolaires avant les reflets du cinéma. Quel type de projets sont mis en place avec Atmosphère 53?
Dans le cadre de collège au cinéma, donc on propose donc des ateliers. Je fais en sorte qu'il y en ait spécifiquement autour des reflets, en lien en fait avec la thématique de l'édition. Donc cette année, ce sera le Canada. Et donc il y aura effectivement plusieurs projets menés en amont pour qu'ils soient présentés lors du festival avant des séances. Quoi. Donc il y a une classe au Collège Saint-Martin-de-Montsûr qui réalise de A à Z un film d'animation en papier découpé. Donc ça, eux, ils ont travaillé vraiment depuis le mois de septembre pour que leur film soit fait, puisque vraiment, ils fabriquent toutes les étapes. Je veux dire, du scénario, en passant par les prises son, tous les décors et tout, eux-mêmes, quoi. Et ensuite, il y a une autre classe de troisième qui réalisera des capsules vidéo. Des capsules au sens où ce sera des petites vidéos courtes de présentation du Canada, grosso modo, qui pourront être présentées avant les films, soit en lien, une thématique en lien ou pas, on verra. En fait, on ne sait pas encore aujourd'hui, puisque c'est les élèves qui choisiront ce qu'ils feront, mais ça sera du coup début février. sur une plutôt une, presque une résidence artistique finalement. Enfin, en tout cas, c'est sur, étalé sur 2 semaines. Et puis, il y aura encore un autre projet, une classe de 4e au Collège Gerbault de Laval qui, lui, va couvrir le festival, en fait. On va former la classe la semaine du 11 mars, la semaine juste qui précède le festival, au métier de journaliste, reporter et vidéo, en fait, dans l'idée. Ils seront par groupe, par tâche, par mission, pour couvrir le festival, donc, c'est-à-dire finalement rencontrer l'organisation du festival, les salles qui accueillent le festival, et puis ils parleront des films qui sont présentés, et ben, on a grand espoir de leur, même, de leur faire rencontrer des invités du festival. On attend une réalisatrice, on attend une actrice. J'espère que les emplois du temps se coordonneront, puisque ce sera sur le temps scolaire. Hein, mais hâte de ce projet-là. Et, waouh, il est complètement fou parce qu'il est complètement sur le temps réel du festival.
D'un point de vue justement des ateliers qui sont mis en place sur la fabrication d'un film, est-ce que vous sentez vraiment que les jeunes s'en emparent ? Est-ce que c'est important aujourd'hui de comprendre aussi ce qu'est l'image et ce qu'elle peut véhiculer ?
À la fois, pour moi, du coup, le cinéma, c'est de l'image. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils voient, la façon dont c'est fait. Aussi parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'images différentes et qui sont susceptibles de voir comme ça sans trop savoir. Il faut qu'ils fassent la part des choses, donc on essaie de leur apprendre ça. Et les initier au cinéma, les initier à l'image, les initier à des métiers. Et donc l'idée, c'est leur donner goût, en fait. Et donc certains, en fait, s'en emparent autant que possible. Comme il y a plusieurs choses à chaque fois, c'est plusieurs étapes, que ce soit finalement le son ou les décors, les dessins pour certains, ou effectivement la mise en voix, la musique. Tous ne seront pas réalisateurs ou acteurs, mais voilà, c'est ce qui est le plus connu, et nous on leur apprend en fait qu'il y a autre chose, quoi.
Raconter une histoire, c'est une technique, une certaine structure, mais c'est aussi faire appel à ses émotions, à notre propre histoire ou même celle de quelqu'un d'autre. Est-ce que dans ces âges-là, on s'ouvre facilement à ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho comme outil pour ces projets cinéma ?
Eh bien, le cinéma, c'est de l'émotion. Et c'est vrai que... Mais c'est aussi un âge particulier, un peu timide. Donc, leurs films préférés, en l'occurrence, sont souvent des films horrifiques. Quand même, hein, vraiment. Donc, les dispositifs, en fait, qu'on porte à Atmosphère 53 sont des dispositifs qui présentent des films un peu différents. Avec les comités de pilotage, on cherche à trouver les films qui vont leur plaire. Mais c'est vrai aussi que l'idée, c'est vraiment de leur montrer autre chose que ce qu'ils voient à la maison. Et surtout, bah, l'idée, c'est aussi qu'ils les voient en salle de cinéma. Nous, notre travail, c'est ça, d'amener les gens en salle via des invités, des séances rencontres qu'on organise de manière générale, via les scolaires, parce que du coup, le jeune public, ben, c'est le spectateur de demain, quoi.
Donatien s'est parlé de la pluie, du beau temps, des amours passagers, des souvenirs d'enfance. Aujourd'hui, c'est bien autre chose qu'il aborde dans sa chronique, puisqu'il s'inspire d'une chanson de Georges Brassens. Vous la reconnaîtrez, écoutez.
Rappelons-nous, il arrivait sur la scène de Bobino ou celle de l'Olympia avec sa guitare qu'il portait nonchalamment sous la lumière des projecteurs, comme sous l'éclaircie on traîne un parapluie par la dragonne. Il posait le pied gauche sur un tabouret et sans même se donner la peine de retirer sa pipe qui lui cramait la moustache, il entonnait de sa voix grave la ballade des dames du temps jadis, le gorille ou l'auvergnat, frappant comme nul autre de ses doigts gourds les 6 cordes de son instrument, roulant des yeux comme perdu dans l'espace, cherchant dans l'air à retenir d'éphémères accords qui jouaient à la ronde. La ronde du temps qui passe, puis il est mort en 1981, clamsé, décédé, disparu, passé de vie à trépas. Il a raccroché sa guitare, cassé sa pipe, cédant aux ailes imbéciles de la Camarde, s'est exilé à 7, juste au bord de la mer, à 2 pas des flots bleus. Il la chantait, la mort et les croque-morts, flirtant avec la faucheuse, pas plus pressé qu'un autre de rejoindre les verts pâturages. Un brin nostalgique qu'aurait-il écrit sur les sépultures d'aujourd'hui quand la clé USB et le PowerPoint ont remplacé le missel recouvert de cuir et le chapelet de buis. Un site sur Internet permet de laisser des témoignages et de publier une photo sans faire le déplacement. Le choix du cercueil se fait sur un catalogue virtuel. Avant de traverser le Styx sur la barque de Caron, pour réduire l'empreinte carbone sur la planète, on peut vous proposer une urne consignée ou bien une urne en carton biodégradable. Ça sent bon l'écologie, mais que sont devenus les corbillards d'antan? Ceux qui menaient à leur dernière demeure des trépassés, qui se réjouissaient de voir leurs héritiers mettre les pas dans le crottin, laissés sur le chemin par des chevaux peu pressés. Les Maccabées souriaient-ils de voir leur descendance salir leurs jolies pompes funèbres? Aux fossoyeurs, aux curés, aux croque-morts, on payait un verre et tout le cortège suivait à l'amble le corbillard qui menait grand-père au cimetière en cahotant. La messe a perdu son latin, le curé sa soutane, le LED a remplacé le cierge et le goupillon d'eau bénite sur le bois dur dont on fait les cercueils pleure sa peine du même geste avec lequel le chanteur frappait les six cordes, un geste qui rappelle celui avec lequel la truelle de son père maçon enduisait le mur des souvenirs que fissure le soleil d'été pour y laisser la mousse s'incruster au fil du temps.
Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain, de bonne grâce ils en faisaient profiter les copains. Y a un mort à la maison si le cœur vous en dit, venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux, quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passent sous le nez, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan, les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant? Les petits Maccabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards à tombeau grand ouvert emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs, quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis. On s'aperçut que le mort avait fait des petits, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan, les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant? Les petits Maccabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où, et même à la grande rigueur ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil, où quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan, les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant? Les
petit Maccabée, 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 ronze prospère, quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans.
C'était Les funérailles d'antan de Georges Brassens. L'agité du local se termine maintenant. Merci à Maris, Gaspard et Didier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Donatien et merci à toi, Lucie. Restez bien à l'écoute de l'autre radio puisque votre soirée commence à 19h sur nos ondes. Et alors, elle commence bien.
Et oui, on commence avec À la jeunesse des micros. Et aujourd'hui, les jeunes se posent des questions. De quoi sommes-nous constitués ? De quelle identité sommes-nous les fruits ? De quelles histoires sommes-nous le dénouement ?
Ces interviews ont été menées à Avignon l'été dernier. Des jeunes sont partis là-bas et ont tendu leur micro à des auteurs, comédiens, artistes de tout domaine pour leur poser des questions.
Et ensuite, à 21h, on continue avec Frères de chaussures, une émission de rap français proposée par Fatshu.
Nous, on se dit à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons en compagnie d'Océane Beucher, des Allumés, du Bidon. D'ici là, je vais faire simple aujourd'hui. S'il vous plaît, faites-le.
Mimi, tu crois que c'est fini ?
Quand elle dit au revoir, bah c'est que c'est terminé.